De retour en direct, place de la Calade sur la COP d'ici. Nous sommes le samedi 9 décembre. Vous écoutez Radio Alliance Plus. Vous êtes sur le 103.2 FM ou sur notre site internet et nous vous en remercions. Nous allons poursuivre la présentation des associations qui sont présentes sur cette COP d'ici, sur cette agora citoyenne. On entend des applaudissements. Nous sommes en direct avec une belle danse qui a été proposée et qui reviendra dans une petite heure. Et pour l'heure, nous allons interviewer donc Florence Voller, qui représente aujourd'hui Scientifique en Rébellion. Bonjour Florence.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être avec nous. Alors Scientifique en Rébellion, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Oui, donc Scientifique en Rébellion français, c'est une branche de Scientist Rebellion. En fait, c'est un mouvement plus général international de scientifiques qui ont décidé de sortir des laboratoires et de venir au contact du public, plus pour expliquer les enjeux scientifiques, les consensus scientifiques assez graves que nous avons à regarder en face, notamment les enjeux climatiques et les enjeux de la biodiversité. Donc voilà, en ce qui concerne la France, tout est parti en 2019 d'une tribune qui a été signée dans le monde par un millier de scientifiques qui ont dit qu'on ne pouvait pas continuer à publier de la recherche, faire notre travail de toute façon, simplement parce qu'on n'est pas suffisamment écouté, donc il fallait passer à d'autres types d'actions. Et donc après ça, il y a eu le Covid. Et depuis l'année dernière, là, il y a eu un certain nombre d'actions. On est maintenant 400 scientifiques en rébellion en France et 2000 sympathisants et sympathisantes. C'est un mouvement qui se veut inclusif et respectueux de tous. Donc ce sont des scientifiques, mais pas forcément des chercheurs. Ça peut être des médecins, des vétérinaires, toutes sortes de professions scientifiques, des médiateurs scientifiques d'ailleurs. Et donc nous avons mené un certain nombre d'actions depuis une année. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle.
Avec plaisir.
Voilà. Donc on a travaillé à la fois sur les questions de climat. Et de climat, on a fait des actions coordonnées au printemps dernier pour demander à BNP Paribas d'arrêter de financer les énergies fossiles. Puisqu'ils continuent à financer des nouveaux projets, notamment Total avec ICOP, etc. Donc on est allé manifester devant pas mal de petites agences BNP Paribas partout. Chaque fois on développe un argumentaire assez précis pour bien expliquer pourquoi il faut arrêter de financer des nouvelles prospections d'énergie fossile, etc. Donc ça, je peux vous en parler un petit peu après. L'autre volet, et on ne l'oublie pas parce qu'on en parle moins, c'est la question de la biodiversité, puisqu'on est confronté à une perte relativement terrible et massive de pertes de biodiversité. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué quand j'ai appris ces chiffres. Donc on a quand même les scientifiques, notamment du Muséum National d'Histoire Naturelle, donc c'est réellement des chiffres tout à fait fiables, montrent qu'il y a moins de 30% une perte de 30% des populations d'oiseaux des champs en France en 30 ans. Et puis pour certaines, cette diminution est encore beaucoup plus forte. Et puis pour les insectes, c'est pire, c'est de 50 à 70%, 80%. Pour certains, ouais, les papillons ont diminué, etc., partout en France et en Europe. Et donc tout ça, c'est aussi lié au changement climatique. Mais nous voulons alerter aussi sur ces sujets-là, qui sont un petit peu moins dans l'actualité, si vous voulez. Et aussi, il nous semble important de montrer le lien entre les problèmes climatiques et les problèmes de biodiversité, parce qu'il y a des liens assez forts. Et donc, tout est lié, quoi.
Voilà. C'est vrai qu'on a tendance, clairement, à médiatiser beaucoup plus les enjeux climatiques et le réchauffement atmosphérique que l'érosion de la biodiversité. C'est un sujet qui est quand même sous-médiatisé par rapport au reste. Comment ça se fait ?
En tout cas, les COP, par exemple la COP 15 sur la biodiversité n'est pas au même moment que la COP 28 actuellement, c'est une question. Je sais pas, le climat, on a l'impression que ça touche tout le monde, même dans les villes, tandis que la biodiversité, les urbains peut-être ne se rendent pas compte de la gravité du problème, et en fait on va droit vers un mur, parce que si on n'a plus de pollinisateurs, on aura des problèmes pour l'agriculture. Qui, par exemple, en Californie, ils importent déjà, enfin, ils doivent amener des ruchers en quantité considérable pour, pour pouvoir polliniser les champs d'amandiers, parce qu'il n'y a plus du tout d'abeilles là-bas, par exemple. Enfin, juste, je donne un exemple. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des problématiques qui nous importent. Donc, notre objectif, c'est d'alerter sur les consensus scientifiques. Donc, on se base uniquement sur des chiffres. Hein. On n'est pas un mouvement d'opinion. On est un mouvement pour diffuser des faits scientifiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les faits scientifiques ? C'est-à-dire, c'est des données qui sont issues de travaux poussés de personnes comme vous et moi, enfin comme l'ensemble des chercheurs et de la communauté internationale, qui passent des années à réfléchir sur un sujet, qui font des suivis à long terme de populations d'insectes, d'oiseaux, de mammifères, etc. Donc qui ont des chiffres précis et qui plus est, qui sont validés par les pairs, c'est-à-dire qu'on ne publie que des papiers qui sont acceptés par la communauté scientifique. Donc ça, c'est ce qui nous différencie de l'opinion, du journal comme on trouve dans votre kiosque. C'est pour bien indiquer que, enfin, on n'a pas pour autant la vérité, mais on a des éléments pour aider les décideurs, les citoyens, les citoyennes, que nous sommes aussi, bien entendu, à prendre des bonnes décisions.
Alors justement, c'est intéressant parce que bon, le côté scientifique, bien sûr, ressort de ce combat. Ce qui est intéressant sur le sujet de la crise climatique, c'est que c'est un sujet qui est très complexe et qu'il y a énormément d'externalités qui peuvent changer la manière de comprendre la chose. Comment est-ce qu'en tant que scientifique, on peut imaginer la diffusion de ce type de messages qui sont en fait très compliqués à comprendre? Et en fait, comment est-ce qu'on peut demander aux citoyens d'agir en sachant que il peut y avoir des actions qui seront très concrètes et très valorisables et qui auront un gros effet et qu'il y en aura d'autres qui seront beaucoup moins impactantes?
Moi, je ne sais pas si c'est complexe, effectivement, dans les facteurs du changement climatique. Mais en termes de chiffres, ce n'est pas si complexe que ça. Enfin, en tout cas, les chiffres sont simples. Hein. C'est-à-dire, on a un budget carbone. Peut-être les autres intervenants vous en ont déjà parlé. Mais en gros, jusqu'à 2000, enfin, les prévisions, les modèles, les prospectives scientifiques montrent clairement des chiffres très, très simples. C'est-à-dire que si on ne réduit pas de 43% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, on va dépasser la limite moyenne des plus 1,5 degrés par rapport à 2019. Donc, bon, tout le monde comprend ça. Il faut vraiment diminuer de 43% en 7 ans. Et actuellement, avec toutes les politiques qui sont envisagées au niveau mondial, on a une chance de diminuer de 2%. Donc c'est-à-dire qu'on va 20 fois moins vite que ce qu'il faudrait. Alors je ne sais pas si ça c'est difficile à comprendre. Par contre, c'est difficile à intégrer. On peut comprendre ces chiffres-là, mais comprendre qu'on doit diminuer nos émissions de 4 par un facteur 4.
Et comment surtout.
Alors comment, effectivement. Ça, de toute façon, ça, ce n'est pas les chercheurs qui vont dire comment. Peut-être en agriculture, il y a aussi des prospectives assez claires qui expliquent comment. Mais de toute façon, c'est les citoyens et les citoyennes qui doivent aussi s'approprier la question, parce que ça ne doit pas tomber d'en haut. Ce qu'on sait aussi, et ce qu'ont montré aussi différentes associations, c'est que même si tous les citoyens, à titre individuel, nous prenions les mesures nécessaires, c'est-à-dire diminuer notre consommation de viande par deux, arrêter de prendre notre voiture, diminuer énormément nos voyages en avion, etc. Donc l'ensemble de ces mesures-là, si tous les citoyens français et du monde prenaient ces mesures-là, enfin tous les pays riches en tout cas, nous aurions fait 25% de l'effort. Il y a encore 75% du côté industriel, du côté agricole, etc. Et donc ça, c'est que l'État qui peut quand même imposer des réglementations, qui peut orienter des politiques. Hein. On ne peut pas tout faire. Mais nous sommes là aussi en puissance de vote. Hein. Nous sommes là pour donner notre vote là où ça doit pouvoir évoluer. Voilà.
Vous, scientifique en rébellion, vous avez tout à l'heure donné un peu l'exemple de votre action vis-à-vis de BNP Paribas. Est-ce qu'en majorité, vous faites des actions face, par exemple, à des acteurs privés, par exemple, de presque désobéissance civile, en tout cas des manifestations, ou vous avez également des actions de vulgarisation auprès des citoyens?
Mais on essaye de faire les deux. Pour l'instant, la désobéissance civile, par exemple, l'action que nous avons faite devant les BNP Paribas ou au Jardin des Plantes, c'était pas déclaré. Et on a eu la police qui est venue nous faire évacuer. Voilà, ça, pour l'instant, c'est pas des actions terribles. Et il y a eu aussi une action l'année dernière au Muséum d'Histoire Naturelle où pendant une nuit, les collègues ont occupé la galerie de paléontologie, se sont enchaînés au mammouth là, et ont pendant une nuit expliqué tous les enjeux sur la biodiversité. Donc là, ils ont pris quelques risques et ils ont été en garde à vue et puis ils ont eu un procès la semaine dernière d'ailleurs. Mais c'est une façon aussi de médiatiser. Donc avant tout, c'est médiatiser, mais des actions, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut qu'on soit tout nu, couvert de peinture rouge pour attirer plus l'attention des médias? C'est vraiment la question qu'on se pose. Il se trouve que nous, on pense jusqu'à présent qu'on peut avoir une certaine légitimité en étant avec nos blouses blanches. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut passer comme message dans l'opinion? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on table sur un certain sérieux, disons, et des actions de désobéissance pas violentes, en tout cas complètement non violentes. Et puis, on respecte le matériel, etc. Mais on voudrait faire parler plus de nous, et pas tellement de nous, mais des chiffres qu'on veut, sur lesquels on veut alerter l'opinion.
Et justement, il me semble que vous avez participé à un autre événement. Là, vous êtes donc ici pour la COP d'ici. Mais il y a une autre COP alternative à laquelle vous avez participé récemment. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette action-là et quel était votre message sur cette action?
Oui, tout à fait. Donc le week-end dernier, pendant 4 jours à Bordeaux, l'ensemble des scientifiques en rébellion de toute la France sont venus à Bordeaux. La mairie avait mis à notre disposition un bunker là, sous-marin. Et on a organisé ce qu'on appelait l'AlterCOP 28, où on a justement, avec les acteurs locaux, avec de nombreuses associations locales, on a fait des actions de sensibilisation, et puis on a fait par exemple un procès fictif de Total pendant toute une après-midi, en faisant beaucoup interagir le public. C'était très très intéressant parce que en fait on s'aperçoit que les enjeux, même si on pense que Total est tout à fait a fait des actions tout à fait répréhensibles, c'est difficile à argumenter, et puis c'est pas manichéen, c'est pas tout blanc tout noir, donc c'est pour s'entraîner aussi à peut-être mener plus tard des actions en justice, parce que jusqu'à présent, ce qui a l'air de fonctionner un peu, c'est des actions en justice des associations qui se retournent contre l'État, comme Justice pour le Vivant, etc. Et puis aussi, on a fait des tables rondes à Bordeaux sur la question justement des pesticides, de l'agriculture, des transports, parce qu'il y avait tous les militants de la 69, des militants contre la LGV, la ligne à grande vitesse là-bas. Des luttes locales contre une espèce de je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin un centre de surf complètement artificiel qui demanderait des mètres cubes d'eau, ou voilà, des genres de projets qu'on peut appeler écocidaires, qui posent des problèmes majeurs pour l'environnement. Donc l'ensemble de ces problématiques ont été abordées, discutées, il y avait beaucoup de médias. Il y avait aussi des artistes, un peu comme aujourd'hui, et je trouve que chaque fois ça donne une dimension différente, parce que faire appel aux émotions, c'est aussi important, pas uniquement à la raison, parce qu'au bout d'un moment on est fatigué de tous ces chiffres affreux, et donc il faut que les citoyens se mobilisent. Nous appelons à ce qu'il y ait des assemblées citoyennes du climat un peu partout, un peu comme aujourd'hui à Nîmes, et on a trouvé les initiatives de Nîmes absolument géniales, et bravo pour tout ce qui s'est fait à Nîmes, et notamment les médias comme vous qui faites la part belle à la parole des associations. Et on pense qu'il faut avoir des associations, des discussions à tous les niveaux citoyens, que ce soit dans les mairies, dans les entreprises, dans les clubs de sport, etc., pour savoir pour bien partager toutes ces connaissances et pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il va falloir faire des choix difficiles.
Alors justement, moi je me posais une question. On constate, donc vous êtes scientifique, vous croyez dans les faits, vous croyez dans les chiffres. On constate qu'il y a de plus en plus de scepticisme à l'égard justement de la science en elle-même, ou même de dire non, c'est pas vrai, j'y crois pas à tel chiffre ou tel chiffre. Comment est-ce qu'on peut potentiellement en tant que média, mais comment est-ce que vous arrivez à démonter ce type d'argument? Est-ce que c'est possible? Et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça s'étende à de trop nombreuses personnes?
Un de nos objectifs aussi, c'est de lutter contre tout ce qui est désinformation, greenwashing. Et là, pour ça, les scientifiques que nous sommes, nous avons aussi des scientifiques en sciences humaines et sociales, des sociologues, des politologues, dont le travail de recherche, c'est réellement d'interroger un petit peu les messages, par exemple, de Total, les messages des grandes entreprises, et d'en démonter un peu les rouages et de démystifier, d'analyser les fake news, tout ce qui est fabrique de l'ignorance, comme on appelle. Parce qu'il y a énormément de lobbies qui, depuis le tabac, depuis les années 50, font des fausses recherches pour influencer le public et l'opinion pour dire que le tabac c'est pas si mal, l'amiante c'est pas si mauvais, le climat, il n'y a pas besoin de s'énerver trop, on va trouver des solutions, etc. Donc nous on est là pour essayer de débusquer et essayer de démentir ces informations. Par contre, au niveau pédagogique, on compte sur les enseignants, on compte sur les médias pour que le niveau scientifique soit suffisamment important, enfin soit suffisamment élevé dans l'éducation nationale pour que les élèves et les futurs citoyens et citoyennes soient en mesure d'avoir un esprit critique par rapport à toutes les informations qui leur arrivent. Pardon.
Souvent, tu as abordé très bien la désobéissance civile tout à l'heure. Souvent, on évoque le fait que ce ne soit pas productif. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui ont jeté de la peinture sur des tableaux, etc., on disait « Non, mais ça, pour sensibiliser, ce n'est pas très efficace. » Qu'est-ce que tu en penses de ces critiques-là ?
En tout cas, on en a beaucoup parlé. Hein. Ouais. Alors, moi, je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Néanmoins, dans l'opinion publique, ces idées-là font leur chemin. On ne peut pas négliger que, avec tous ces mouvements, Alternatiba qui nous accompagne aujourd'hui, par exemple, ils ne sont plus là, mais Alternatiba, Extinction Rébellion, Dernière Rénovation, tous ces mouvements de citoyens engagés, souvent jeunes, qui sont soumis à l'éco-anxiété, malgré tout, je pense qu'on a fait réduire le climato-scepticisme en France, et qu'en tout cas, parmi les jeunes générations, le climato-scepticisme n'est pas trop répandu. Bon, voilà, je pense que c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'ai envie de me tourner vers les médias. Chaque fois, ils nous disent « Mais pourquoi vous ne faites pas plus d'actions violentes ?» Par exemple, à Bordeaux, il y a une grande chaîne de télé française qui ne s'est pas déplacée parce qu'ils nous ont demandé « Est-ce que vous allez faire une action violente ?» Sinon, on ne descend pas. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce que vous voulez qu'on se pende à des arbres ? Qu'est-ce que c'est qui vous donnerait envie ou qui serait intéressant pour parler de nous ? Moi, je ne sais pas, ce n'est pas notre métier, hein, donc ce n'est pas évident, en fait. Voilà, on est un petit peu confronté à ça. Quel type d'action mener ? Vous voyez, donc je ne sais pas.
Puis on peut imaginer que vous seriez extrêmement jugé si vous faisiez une action qui dégradait des matériels.
Ah, ça, c'est certain, oui, certain, mais voilà.
Mais c'est vrai que l'anecdote du sensationnalisme là, que tu as évoqué, c'est assez dramatique. C'est-à-dire que vraiment, c'est une chaîne qui a énoncé ça, qui a dit non, mais en fait, il faut à tout prix...
Mais écoutez, qu'est-ce que vous nous donnez de croustillant pour nos téléspectateurs qui une altercope à Bordeaux, ma foi, bon. Mais par contre, si vous cassez quelque chose ou si vous envisagez un truc vraiment violent, ça peut peut-être intéresser notre chaîne. Oui, voilà, bon, donc nous, on ne va pas rentrer dans ces jeux-là.
Donc pour conclure, une dernière question sur vos actions. Vous, actuellement, c'est une association qui est à la base anglaise
Non, c'est vraiment international. Oui, Scientist Rebellion. Enfin, on fait Scientifique en Rébellion. On est le groupe français de Scientist Rebellion. Voilà.
Et donc ça s'articule en majorité sur des actions de vulgarisation et de désobéissance civile sur différents endroits de France.
C'est ça.
Si des personnes souhaitent tout simplement s'intégrer, comment ça se passe ?
Donc, écoutez, le mieux, c'est de regarder notre site Scientifique en Rébellion, où tout est indiqué, notamment tous les événements de la COP 28, AlterCOP 28 que nous avons menés à Bordeaux, vous trouvez cette information, nos raisons d'être, et l'ensemble des informations nécessaires, si vous voulez, pour tous les scientifiques intéressés, mais pas forcément les chercheurs, je répète, et les chercheuses. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Merci beaucoup, Florence.
Merci beaucoup à vous.
On se retrouve dans quelques minutes après une petite musique.
Nous serons avec les Shifters, représentés aujourd'hui par Philippe Devers.